Juliette Rangeval.
Bonjour à tous. Les journalistes meurent aussi en Europe. C'est le titre d'un texte de Reporters sans frontières sorti au moment de la publication de son index sur la liberté de la presse le 16 octobre 2017. Daphne Caruana Galizia, journaliste d'investigation et blogueuse, est tuée dans l'explosion d'une voiture piégée dans le nord de Malte. L'attentat provoque des réactions dans tout le continent, mais aujourd'hui pour RSF, la situation continue de se dégrader dans l'ensemble de l'Union européenne. Meurtres, menaces, attaques verbales, aucun pays n'est véritablement épargné par ce climat inquiétant. C'est aussi ce qu'explique à Pierre-Olivier Andrew Caruana Galizia, c'est l'un des trois fils de la journaliste maltaise assassinée.
On voit bien que les journalistes tués dans les dernières années en Europe, c'était toujours dans des régions périphériques. Malte, Slovaquie, il y a des attaques contre des journalistes en Bulgarie, en Roumanie. Mais personnellement, j'ai peur que ces attentats, ils vont devenir un problème vraiment au cœur de l'Europe. En France, par exemple, on voit bien les mêmes patterns de discours politiques qu'on a vu à Malte, à Slovaquie, en Pologne, en Hongrie. Et ça me fait vraiment, vraiment peur pour le futur de la presse libre en Europe. En fait, les journalistes sont que en sécurité quand le reportage ont des conséquences institutionnelles. Ça veut dire quand la police poursuit les sujets de reportage en justice. Si les politiciens corrompus, des criminels organisés, ils ont aucune raison d'avoir peur de la police, du système judiciaire. Les journalistes sont toujours en danger. Et c'est ça qu'on a vu à Malte, dans le cas de ma mère.
En Biélorussie, longtemps considérée comme la dernière dictature d'Europe, le pouvoir poursuit son rapprochement avec ses voisins occidentaux, mais les médias restent soumis à un contrôle draconien et de nombreuses restrictions rendent leur travail très compliqué. Les journalistes étrangers n'y échappent pas non plus. Le pouvoir biélorusse semble déterminé à garder la main sur les médias du pays. C'est un reportage de Paul Gogo.
Le 16 juillet dernier, Dmitri Alko, journaliste biélorusse de 39 ans, a été condamné à 4 ans de travail forcé par un tribunal de Minsk dans une affaire qu'il estime montée de toutes pièces. Pendant 4 ans, Dmitri travaillera dans des champs et en usine tout en ayant la possibilité de sortir quelques heures de son dortoir à sa guise. Une peine d'autant plus insupportable pour Dmitri qu'il la trouve absurde.
La police est venue chez moi lors d'une soirée durant laquelle mon fils fêtait son anniversaire. J'ai ouvert la porte, ils m'ont posé quelques questions. En allant chercher mes papiers, un policier m'a poussé et a couru dans l'appartement. Il a commencé à me filmer alors qu'il n'en avait pas le droit, puis il s'est mis à crier qu'il avait été attaqué en se filmant. Mais je ne l'ai pas touché. Des forces spéciales ont débarqué, ils m'ont mis des menottes à moi et mon fils. Ils nous ont emmenés au commissariat. Ils ne m'ont pas interrogé, ils m'ont annoncé une simple amende administrative au moment de me libérer.
Quelques jours plus tard, Dmitri apprenait que les autorités avaient déposé plainte pour violence envers les forces de l'ordre. Lors de son procès, les policiers qui ont témoigné n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient porté plainte et les irrégularités du procès très nombreuses. Pour Dmitri, comme pour Reporters sans frontières, il n'y a aucun doute, les autorités biélorusses lui font payer son engagement de journaliste d'opposition.
J'ai toujours travaillé pour différentes sortes de médias indépendants. En 10 ans, j'ai été arrêté plusieurs fois pour des amendes administratives. Je passais 5 à 15 jours en prison à chaque fois. En 2017, j'ai travaillé pour un média d'opposition, Belarusian Partisan. J'ai beaucoup écrit à cette période. L'année dernière, j'ai couvert les grandes manifestations. J'écrivais depuis chez moi. Il y avait souvent une voiture de police garée en bas de mon immeuble. Puis j'ai quitté ce journal pour travailler dans un journal neutre, dédié à l'économie. Je me suis mis à penser que ma vie de rebelle était finie. Et là est apparue cette affaire criminelle contre moi.
Journaliste pour l'agence de presse indépendante Belapan, Tania Korovenkova est aussi harcelée par les autorités. Son média, tout comme un autre site d'information en ligne, Tutbai, sont accusés par les autorités d'avoir utilisé illégalement des informations officielles, ou plutôt de les avoir publiées avant le délai légal.
Pour le moment, on est tous accusés. Il y aura bientôt un procès où on ira dire comment on travaillait. Au départ, ça visait surtout ce site très populaire en Biélorussie. La police a récupéré les ordinateurs et les serveurs. Le but des autorités, c'était de nettoyer le champ d'information pour que les médias fassent attention à ce qu'ils écrivent et surtout soient moins critiques.
En toile de fond de cette affaire, une Biélorussie au paysage médiatique soumis au pouvoir, la majorité des médias classiques appartiennent à l'État, les autres favorisent l'autocensure à la critique pour assurer leur survie. Seuls les nouveaux venus sur la toile se rebellent. Andrei Bastounets, président de l'Association des journalistes biélorusses.
Il est évident que le but de cette affaire criminelle est de changer la situation des médias en ligne. Sur Internet, les ressources indépendantes prévalent sur les médias d'État. Sur les 10 sites d'information les plus fréquentés de Biélorussie, 9 sont critiques du pouvoir.
Mais début décembre, une loi sur le contrôle du journalisme en ligne entrera en vigueur. Publications et commentaires pourront plus facilement faire l'objet de poursuites et les sites devront également être autorisés au préalable par les autorités.
Les journalistes non autorisés ne pourront pas parler de protection des sources. Ils ne pourront pas participer aux manifs. Le marché des médias sur Internet va se réduire de manière brutale parce qu'ils ne peuvent pas tous répondre aux conditions de la loi et leurs journalistes ne seront plus protégés.
Pour le président de l'Association des journalistes, la mainmise de la Russie sur le paysage médiatique biélorusse représente une autre entrave à l'indépendance de l'information dans le pays.
60% du contenu télévisuel de Biélorussie a été produit en Russie l'an dernier. Les shows TV, les films, ça permet d'influencer nos citoyens. Nous avons des relations étroites avec la Russie sur les questions économiques et sur la sécurité nationale. Nos deux pays ont également une conception commune de la sécurité de l'information.
Ce nouveau climat d'intimidation ne concerne pas seulement les médias nationaux. Les journalistes étrangers sont désormais aussi la cible du pouvoir qui recourt aux amendes ou même aux intimidations physiques. Katerina Andrieva est correspondante à Minsk pour la télévision polonaise Belsat.
Je fais régulièrement des demandes pour obtenir une accréditation, mais elles sont toujours refusées. Quand je fais des directs, les policiers viennent m'attraper, me jettent dans leur voiture. Je dois souvent rester la tête contre un mur pendant 3 heures, comme si j'étais arrêtée. Alors que l'on ne m'arrête jamais. Il s'agit toujours d'amendes administratives. Ils me donnent alors un papier qui explique que je travaille sans autorisation. Ils ne me le disent jamais sur le terrain. Ils préfèrent m'emmener au commissariat. Ce sont toujours des hommes très grands qui viennent se coller à moi. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est une force physique qui n'est pas du tout nécessaire.
Les amendes peuvent se monter à plusieurs milliers d'euros par mois, autant dire un racket qui ne dit pas son nom. Pour Ekaterina, le visage démocratique affiché par le président Loukachenko n'est qu'une façade.
Il jouait au gardien de la paix pendant les négociations de Minsk. Il a essayé de montrer sa face positive à l'Ouest. Mais il y a un an, il y a eu beaucoup de manifestations. C'était une catastrophe pour lui. Il a relancé la machine à propagande. Ils ont détenu et frappé des journalistes. Je ne sors aujourd'hui plus sans mon kit du journaliste biélorusse, un sac avec de la nourriture, des médicaments, des pansements et mes papiers. Nous attendons la prochaine vague de répression.
Habitués à voir les autorités durcir le ton au gré des élections, les journalistes indépendants de Biélorussie redoutent déjà une intensification de la répression à près d'un an de la prochaine élection présidentielle.
Et malgré les pressions, les menaces, certains se lancent malgré tout. Un nouveau journal indépendant vient de voir le jour à Prague, en République tchèque, où les médias sont dominés par le Premier ministre Babiš et par des milliardaires comme Daniel Křetínský. Les explications d'Alexis Rosenzweig.
Pas facile de lancer un nouveau média écrit en 2018, mais les fondateurs de Denik N sont résolument optimistes, d'autant que la campagne de financement participatif a atteint les objectifs. Lancée officiellement le 28 octobre, à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de l'ancienne Tchécoslovaquie, le modèle de ce nouveau site tchèque d'information est d'ailleurs à chercher du côté slovaque de la frontière, même nom, même indépendance revendiquée, et accès payant, comme le site lancé il y a quelques années à Bratislava, est devenu aujourd'hui rentable, financé par des mécènes qui ne sont ni des industriels ni des politiciens. Le nouveau Denik N est une exception dans un contexte tchèque très particulier, où le chef du gouvernement Andrej Babiš possède journaux, sites internet et radio, et où quelques autres grandes fortunes du pays, dont Daniel Křetínský, ont acquis des médias pour s'en servir, pour combattre leurs adversaires et concurrents. Les journalistes de Denik N viennent pour la plupart de médias de plus en plus sous pression. Denik N est également aidé par le Fonds pour le journalisme indépendant, qui avait soutenu financièrement le journaliste d'investigation slovaque Jan Kuciak, assassiné en début d'année. Pour le premier numéro imprimé du journal, Un entretien a été accordé par le président slovaque, mais refusé par le président tchèque, connu pour son hostilité envers la presse. « J'aime tellement les journalistes que je pense leur organiser une fête à l'ambassade saoudienne. » Cette terrible boutade a été prononcée avec le sourire après l'affaire Khashoggi par Miloš Zeman devant des journalistes tchèques.
Propos menaçants, concentration des médias. En un an, la République tchèque a dégringolé de la 23e à la 34e place dans l'index de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. En Espagne, un congé parental plus généreux pour les pères. Le pays vise l'égalité parfaite entre congé paternité et congé maternité. Actuellement, les hommes disposent de 5 semaines de congé volontaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant. À l'horizon 2021, c'est 16 semaines qu'ils devraient avoir pour s'occuper des petits. Une mesure qui pourrait chambouler le marché du travail, Diane Cambon.
Il ne reste plus que 2 mois avant que Monica, une madrilène de 35 ans, mette au monde son 2e enfant. Pour son mari Oscar, une course contre la montre a commencé. Des dizaines de dossiers à boucler et des réunions à n'en plus finir avant l'arrivée de leur petit garçon. Cet ingénieur agronome de 39 ans a choisi de prendre l'intégralité du congé paternité auquel il a le droit, à savoir 5 semaines dès l'arrivée du bébé. Un droit qui fait pourtant grincer des dents au sein de sa société.
Dans mon entreprise, personne ne vous empêche de prendre vos congés. De là à ce qu'ils accueillent ça avec joie, je n'y crois pas. Les mentalités ne sont pas encore prêtes. Mais il faut montrer l'exemple et s'imposer en revendiquant nos droits pour pouvoir en bénéficier.
Monica se réjouit d'avoir son mari à ses côtés dans les prochaines semaines, même si pour elle, ce temps dédié au bébé est encore trop court.
On est passé de 2 à 5 semaines, mais c'est encore trop peu. Pour moi, le congé maternité de 4 mois, c'est trop court aussi. On ne peut pas offrir un allaitement exclusif jusqu'au 6e mois. On ne peut pas non plus bien récupérer. Je crois qu'il faudrait allonger le congé maternité et offrir les mêmes droits au père. C'est la seule façon de bien partager les tâches.
Le gouvernement socialiste a présenté un projet de loi pour rendre égaux les congés parentaux. Les fonctionnaires devraient être les premiers à en bénéficier en 2021. Et dès l'année prochaine, les pères de famille de la fonction publique bénéficieront de 8 semaines. Le secteur privé reste encore très marqué par une division des rôles entre femmes et hommes au moment de s'occuper des enfants. Pour Oscar, la parité dans les congés parentaux risque de révolutionner la vie au travail.
Je ne sais pas comment ça va se passer lorsque nous aurons 16 semaines de congés. Comment vont le prendre les patrons? Le fait que les pères veuillent rester auprès de leur famille pour s'occuper de leurs enfants ne va sans doute pas être facile. Mais c'est la seule façon de mettre fin à la discrimination homme-femme dans les entreprises. Évidemment, il y a encore beaucoup d'éducation à faire pour que les futures générations intègrent la notion d'égalité des rôles.
Pour Monica, il s'agit d'un combat féministe fondamental. Au moment de l'embauche, les femmes subissent encore trop souvent la discrimination liée à une éventuelle maternité.
Si je prends un congé de 4 mois, mon chef va dire qu'il préfère un employé homme à une employée femme. Et puis pour le recrutement, aucun employeur ne va favoriser une femme qui risque de tomber enceinte et de s'absenter pendant 4 mois. Surtout que de nombreux hommes assurent par ailleurs qu'ils ne prendront pas leur congé paternité.
Soit par manque d'envie ou par manque de possibilités matérielles, certains hommes refusent leurs 5 semaines de paternité et se contentent des 3 jours de congé obligatoire après la naissance de l'enfant. C'est le cas de Ramon, un entrepreneur indépendant qui assure ne pas pouvoir laisser son entreprise de construction.
Je peux à peine prendre 15 jours de vacances d'affilée. Alors comment voulez-vous que je prenne 5 semaines de congé paternité? Je ne peux pas laisser mes clients tout seuls. Et puis, il y a beaucoup de pères qui préfèrent rester au travail plutôt que d'être aux côtés de leur bébé. C'est tellement épuisant.
Épuisant en effet pour les papas et a fortiori pour les mamans, mais ces 10 dernières années, les habitudes et les mentalités des hommes disposés à chouchouter leur nouveau-né ont quand même évolué. Selon les statistiques publiées par la Sécurité sociale, 3/4 des pères de famille prennent désormais l'intégralité de leur congé paternité, contre la moitié il y a une décennie. Cette nouvelle réalité doit beaucoup à l'évolution du modèle familial. Autrefois, la naissance d'un enfant était une affaire de famille au sens large, comme l'explique Oscar.
Avant, les grands-mères étaient plus présentes. Mais par exemple, dans notre cas, nous vivons loin de notre famille. On ne les voit pas souvent. Il n'y a plus cette communauté familiale, alors qu'on en a plus que jamais besoin pour le nouveau bébé, pour toute la famille, le foyer en général.
L'augmentation des congés de paternité devrait, selon les plans du gouvernement socialiste, particulièrement sensible à la politique familiale, avoir un effet positif sur les naissances. L'Espagne est un des pays d'Europe où le taux de natalité est le plus bas, avec 1,3 enfants par femme, et l'âge moyen pour avoir le premier enfant est désormais de 33 ans. Une crise démographique est à prévoir dans les prochaines décennies si la courbe des natalités ne se renverse pas. L'année dernière, pour la première fois depuis 20 ans, le nombre de décès a dépassé les naissances.
Il y a 100 ans, le monde et bien sûr l'Europe mettaient fin à la Première Guerre mondiale. Cette date marque le début d'une prise de conscience historique sur le continent, d'une volonté de construire une paix durable. Alors que la France s'apprête à recevoir à Paris ce dimanche une cinquantaine de dirigeants étrangers, la revue de presse des Gazettes européennes sur le sujet avec Ève Minot qui est avec nous en studio. Bonjour Ève.
Bonjour Juliette.
Et on commence par la Pologne.
Un coup de gueule exactement, un coup de gueule à lire dans Rzeczpospolita, un quotidien proche du Parti National Conservateur au pouvoir. Le ministre des Affaires étrangères polonais sera bien présent dimanche à la réception organisée par le président français, aux côtés notamment de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Mais le journal regrette qu'aucun représentant français ne fasse ce jour-là le voyage jusqu'à Varsovie, une situation que le journaliste décrit comme triste et paradoxale, alors que la chancelière allemande, elle, s'est déplacée il y a quelques jours pour déposer une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Rappelons que pour la Pologne, la fin de la Première Guerre mondiale marque aussi le début de son indépendance.
Un peu plus à l'est, une publication russe se montre philosophe.
C'est Novaya Gazeta, plutôt critique envers le gouvernement actuel, mais cet état d'esprit philosophe est largement partagé par les titres de presse. Cette semaine en Europe, le journal alerte sur le fait que les États européens seraient tout à fait capables de tomber dans un piège similaire aujourd'hui à celui de 1914. L'humanité est tout aussi divisée au 21e siècle qu'elle ne l'était il y a 100 ou 1000 ans. Les vieilles plaies peuvent se rouvrir à tout moment, prévient le journaliste. Et de continuer, il suffit de crier « anéantissons l'ennemi », ce fourbe, et personne ne se demandera pourquoi le voisin s'est subitement transformé en ennemi.
En Allemagne, en revanche, une journaliste rappelle que les anciennes colonies doivent avoir leur place, toute leur place dans ces commémorations.
Oui, Nadia Pantel, correspondante de la Süddeutsche Zeitung à Paris, remarque que la France de Macron montre qu'elle est enfin disposée à vouloir se confronter à sa propre histoire coloniale. Selon la journaliste du quotidien de centre-gauche, la Grande Guerre est devenue une guerre mondiale parce que les Européens avaient étendu leur velléité hégémonique à l'Afrique, à l'Asie et au Proche-Orient. Elle rappelle comment les colonies se sont elles aussi transformées en champs de bataille avec des habitants en relais de force, amadoués, je cite, par de fausses promesses. Les politiques européens ne pourront pas marquer des points, prévient-elle, seulement s'ils accordent une place centrale à ceux qu'ils opprimaient jadis.
Enfin, Ève, aux Pays-Bas, on s'émeut du manque de place que prend la conscience historique dans les débats politiques actuels.
C'est en tout cas l'avis du correspondant des Télégraphes à Bruxelles, Ruud Mikkers, qui salue le sens des responsabilités d'Angela Merkel en 2015, quand elle avait décidé de mener une politique plus généreuse que ses voisins envers les réfugiés. Elle savait que cette décision ne serait pas bonne pour sa cote de popularité, relève-t-il, mais le prix qu'il aurait fallu payer si elle ne l'avait pas prise, un probable effondrement de l'Union européenne avec toutes ses conséquences auraient été plus lourdes encore, conclut-il, avant de regretter que ce sens des responsabilités ne se fasse pas assez entendre, en tout cas dans les institutions européennes à Bruxelles. Bref, cette semaine, Juliette, l'Europe se célèbre, l'Europe se souvient, mais l'Europe constate aussi que l'histoire a la mémoire courte et que l'Union européenne reste aujourd'hui encore notre meilleure chance de garantir la paix sur le continent et au-delà.
Merci Ève Minot et à la semaine prochaine.
Et on va
reparler bien sûr de ce centenaire de la Grande Guerre. Ce sera dès vendredi dans Accent d'Europe. On parlera notamment de la bière des poilus. Et puis lundi prochain, toute l'émission lui sera consacrée. Accent d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur internet rfi.fr, onglet émission, ou sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à tous.